9h du matin à Port-au-Prince, 15h à Paris. Vous écoutez RFI. Et c'est Florent Guignard que vous retrouvez pour le journal. Bonjour Florent.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire, après la trêve à Gaza, la découverte de dizaines et de dizaines de dépouilles humaines dans les décombres et dans les ruines. Une vaste opération policière menée en Ukraine depuis ce matin face au trafic d'armes avec un millier de perquisitions. L'avenir judiciaire obscurci du président déchu de la Corée du Sud. Des polluants éternels directement du robinet à votre verre, c'est en France. Et puis la mort du journaliste français Jean-François Kahn qui avait notamment fondé l'hebdomadaire L'événement du jeudi. Dans 10 minutes après ce journal, vous retrouverez C'est pas du vent. Comment former efficacement à l'écologie. Le cessez-le-feu est en vigueur dans la bande de Gaza, mais le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas continue de publier chaque jour la liste des victimes de la guerre qu'a menée pendant plus de 15 mois Israël. Parce que chaque jour, depuis le début de la trêve, on retrouve des corps dans cet immense champ de ruines qu'est la bande de Gaza aujourd'hui. En 24 heures, 122 dépouilles sont arrivées dans les hôpitaux. Il y a aussi d'ailleurs des Palestiniens qui meurent des suites de leurs blessures. Gaza, un champ de ruines et les besoins humanitaires qui sont toujours aussi urgents, même si depuis dimanche, les camions d'aide peuvent entrer librement dans le territoire. Sur place, le principal acteur humanitaire, c'est l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Son porte-parole en Europe, Marc Lassou, a expliqué à Guilhem Delteille les difficultés rencontrées aujourd'hui.
Nous avons vu un mouvement de population assez important, notamment vers le sud. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas encore repartir vers le nord de Gaza. Donc on s'attend aussi à un mouvement de population important dès que cette route réouvrira. Maintenant, il faut savoir que les situations sont quand même compliquées sur le terrain, avec un certain nombre de munitions non explosées qui sont encore présentes, sachant aussi que 90% des habitations ont été détruites.
Quelles sont les premières mesures d'urgence que vous mettez en place aujourd'hui pour venir en aide à la population de la bande de Gaza ?
Aujourd'hui, la première urgence, c'est l'aide alimentaire. Les gens ont faim. Le système de santé est à genoux à Gaza aujourd'hui. Les hôpitaux ont été détruits. Les tentes aussi. Il faut avoir plus de tentes dans le cadre de gens qui se déplacent, qui vont revenir vers leurs habitations. C'est un petit peu, le désir de la plupart des gens. Et donc, c'est vraiment tout.
Marc Lassouaoui de l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. En Cisjordanie, l'armée israélienne poursuit sa très vaste opération militaire à Jenin, dans le nord du territoire palestinien occupé, avec l'annonce de deux Palestiniens tués et accusés d'avoir tué trois Israéliens. Des nouvelles maintenant de la guerre en Ukraine avec d'abord la Pologne où deux systèmes de missiles antimissiles Patriot viennent d'être installés pour protéger un aéroport par lequel passe la quasi-totalité de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine. Depuis le début de la guerre et de l'invasion russe, beaucoup d'armes circulent en Ukraine et certaines font l'objet d'un trafic. Et aujourd'hui, les autorités ukrainiennes ont annoncé le lancement d'un millier de perquisitions pour démanteler des réseaux, retrouver des stocks. Correspondance à Kiev d'Emmanuel Chaz.
Dans une courte vidéo aux airs de série à suspense diffusée sur ses réseaux sociaux, la police nationale ukrainienne a partagé des images d'une perquisition parmi un millier d'opérations similaires, dit-elle. Des opérations toujours en cours qui ont lieu à travers tout le pays. On y voit des officiers des forces spéciales en pleine perquisition dans un appartement dont ils forcent l'entrée et des saisies d'argent et d'armes. Selon Kiev, le but de ces opérations est de démanteler un trafic illicite né de la saisie d'armes aux soldats russes sur le champ de bataille. Ces saisies faites dans l'urgence de la guerre échappent souvent à tout contrôle et alimentent un trafic d'armes en augmentation depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. En plus des armes, munitions et explosifs qui circulent illégalement ont également été saisies. La police promet un compte-rendu dès la fin des opérations. Ce n'est pas la première fois que Kiev tente d'endiguer ce trafic d'armes. L'année dernière déjà, d'autres saisies avaient eu lieu à Kiev. Le port et la vente d'armes illicites sont passibles de 7 ans d'emprisonnement, précise la police nationale. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Le Forum économique mondial de Davos, qui se tient chaque année dans la station de ski suisse, sous le signe de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Le nouveau président des États-Unis doit s'exprimer dans 2 heures, à distance, par vidéoconférence. Et ces menaces de taxes douanières occupent les esprits. La patronne de l'Organisation mondiale du commerce vient de mettre en garde contre une éventuelle guerre commerciale mondiale. Rendre coup pour coup serait catastrophique, vient-elle de dire. En Corée du Sud, les suites de la comparution du président déchu, Yoon Suk-yeol, devant la Cour constitutionnelle, qui doit se prononcer sur sa destitution votée par le Parlement. Quant à l'enquête pour rébellion menée contre lui, elle arrive à son terme et l'agence anticorruption réclame au parquet l'inculpation de Yoon Suk-yeol, Nicolas Roca.
Le destin du procureur star devenu président dans les mains des procureurs. Le parquet a 11 jours pour décider s'il lance ou non des poursuites pour abus de pouvoir et rébellion contre Yoon Suk-yeol. Ce dernier chef d'accusation est théoriquement passible de la peine de mort, mais aucune exécution n'a eu lieu en Corée du Sud depuis près de 30 ans. Le président déchu a refusé de répondre aux questions des enquêteurs du bureau anticorruption en charge de l'affaire, mais il collabore en revanche à son procès en destitution auquel il s'est rendu ce jeudi. Les juges de la Cour constitutionnelle doivent décider de rendre sa destitution définitive ou bien de le rétablir dans ses fonctions. À l'audience ce jeudi, le ministre de la Défense a défendu Yoon Suk-yeol en assurant que le président déchu l'avait empêché de déployer des milliers de soldats au Parlement et devant le siège de l'opposition. Preuve selon lui que Yoon Suk-yeol ne souhaitait pas réellement instaurer la loi martiale, mais simplement tenter un coup pour sortir de l'impasse politique.
2000 couples homo se sont mariés aujourd'hui en Thaïlande dès l'entrée en vigueur de la loi qui autorise le mariage entre personnes de même sexe. RFI, les 15h06 à Paris, avec une bonne nouvelle pour la transition énergétique en Europe. Pour la première fois, on a produit l'an dernier plus d'électricité avec du solaire qu'avec du charbon, selon une étude menée dans les 27 pays de l'Union européenne. Mais tout ne va pas si bien pour l'environnement. En témoigne une autre étude qui concerne l'eau potable en France, polluée avec des agents chimiques, des polluants éternels. Cette étude, elle a été menée par l'association de consommateurs UFC Que Choisir et l'ONG Génération Future. Stéphanie Schuller.
L'acide trifluoroacétique, ou TFA, est une substance qui résulte de la décomposition d'autres produits chimiques toxiques de la famille des PFAS, aussi appelés polluants éternels. Avec seulement 2 atomes de carbone, le TFA est de très petite taille et échappe ainsi aux techniques de décontamination. Résultat, dans 20 villes françaises sur 30 analysées, il dépasse largement la norme de référence en vigueur, comme à Paris, Lyon ou Bordeaux. Les scientifiques manquent encore de données sur la toxicité du TFA et ses conséquences sur la santé humaine, mais comme l'explique Pauline Servant, toxicologue de l'ONG Génération Future.
Les effets qu'on retrouve assez systématiquement dans les études, donc chez les animaux, sont des effets sur le foie. Et il y a aussi une étude qui est assez préoccupante qui est faite chez des lapins qui indique des risques de malformation des fœtus. Et donc cette étude a poussé l'Allemagne à proposer à classer le TFA en tant que reprotoxique, toxique pour la reproduction.
Les auteurs de l'étude réclament l'arrêt urgent des émissions de TFA dans l'environnement et donc l'interdiction des substances qui se dégradent en TFA, comme les gaz fluorés utilisés dans les frigos ou encore certains pesticides.
En France, encore la mort d'une grande figure médiatique, le journaliste Jean-François Kahn. Il avait 86 ans, fondateur de 2 titres de presse célèbres, L'événement du jeudi et Marianne Arambang.
Il incarnait le centrisme révolutionnaire, l'humanisme et la fidélité. C'est en ces mots que le Premier ministre a rendu hommage sur le réseau social X à Jean-François Kahn, engagé au sein du MoDem de François Bayrou. Frère du généticien Axel Kahn, il fait carrière dans le journalisme dès la fin des années 50, dans la presse écrite. Historien de formation, Jean-François Kahn a notamment couvert à cette époque-là la guerre d'Algérie pour le compte du journal Paris Presse, L'Intransigeant. Il a également suivi la guerre du Vietnam dans les années 60, période où il signait pour le journal Le Monde et ensuite pour L'Express. À partir des années 70, le désormais célèbre journaliste rejoint l'univers de la radio. Puis en 1997, il fonde avec Maurice Safran l'hebdomadaire d'information Marianne, dont il fut le directeur jusqu'en 2007. En 2014, il publie L'horreur médiatique, un ouvrage critique sur les médias qu'il juge menacé par la pensée unique.
Arambang, enfin, dans ce journal, les nominations pour les Oscars à Hollywood, avec 13 nominations au total pour le film Emilia Pérez. de Jacques Audiard, du français Jacques Audiard. 13 nominations pour un film étranger, c'est du jamais vu. Il est 15h10 à Paris dans un instant. Sur RFI, c'est pas du vent.